Vous écoutez France Culture.
Merci Jean Lebrun et bonsoir à vous. On retrouve tout de suite les nouveaux chemins de la connaissance. Troisième émission d'une semaine trop courte sur l'œuvre de Gustave Flaubert. Hier, nous parlions de l'éducation sentimentale. Demain, nous parlerons de Salammbô. Mais ce soir, tout de suite, c'est d'un des trois contes qu'il sera question, en particulier Un cœur simple, un chef-d'œuvre de brièveté. C'est avec Pierre-Marc de Biasi, flaubertien s'il en est, qu'on parlera d'Un cœur simple ce soir. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Bonsoir. Bienvenue de nouveau au Nouveau Chemin de la Connaissance, puisqu'on vous avait déjà reçu dans le cadre d'une semaine sur la bêtise, pour y parler de Flaubert, évidemment, et du livre dont, du coup, nous ne parlerons pas cette semaine, et c'est dommage, Bouvard et Pécuchet. Enfin, on peut en parler quand même, c'est pas interdit non plus, évidemment. Mais alors, avant toute chose, avant de se plonger dans Un cœur simple, dans ces 20 pages célestes de Flaubert, ou terrestres, on va en parler. Avant toute chose, je voudrais avoir votre sentiment sur une information de Thaïs et Libération qui l'annonce, tout Bovary manuscrit sur Internet. En d'autres termes, on a aujourd'hui accès sur Internet aux 4546 feuillets originaux de Madame Bovary. Numérisés, c'est un travail invraisemblable. Que vous inspire un tel travail et sa mise à disposition de tout le monde, Pierre-Marc de Biasi?
C'est un travail sur lequel nous veillons depuis de nombreuses années, puisque s'il a pu avoir lieu, c'est grâce à un effort de classement avant tout, qui a été fait par une chercheuse qui s'appelle Marie Durel, qui n'est pas suffisamment citée dans cette édition, qui a classé génétiquement les manuscrits de Bovary.
Il faut savoir qu'est-ce que vous appelez pour l'auditeur un classement génétique, hein.
Il faut se représenter que l'œuvre de Flaubert est connue à travers des romans, des textes publiés de son vivant, et puis un peu aussi de la correspondance, une belle et grande correspondance, mais que derrière ces 6 ou 7 000 pages de texte, il y a quelque chose comme 35 000 pages, grandes pages, hein, format A3, de manuscrits de travail qui sont des notes, des brouillons, des scénarios, des plans, à peu près intégralement inédits.
Et dans ce que vous appeliez tout à l'heure l'iceberg, était hors micro.
Voilà, c'est-à-dire quelque chose comme le soubassement d'une œuvre dans laquelle on va trouver les secrets de l'écriture. Et le laboratoire que je dirige au CNRS, par exemple, est spécialisé là-dedans, c'est-à-dire l'analyse des processus d'invention d'écriture. Alors, ce qui a été proposé par Rouen à travers ce site, c'est une première expérience qu'il faut saluer de publication, de transcription de ces manuscrits de travail, brouillons, scénarios, qui ont abouti au chef-d'œuvre qu'on connaît. C'est une opération qui, donne un résultat pour Madame Bovary, qui est en cours également pour d'autres textes, comme l'éducation sentimentale, comme Trois contes également, et pour laquelle il faut évidemment de grandes précautions, parce qu'il s'agit de manuscrits qui ne sont pas faits du tout pour être publiés. Ce sont comme des pages de travail avec...
C'est ce que j'allais vous dire. Ce styliste invraisemblable qu'est Flaubert, qui travaillait, qui sculptait la phrase pour traquer la simplicité, ou l'énonciation, l'énoncé le plus simple et par là même le plus précis, pour accéder à cette simplicité, il en passait par mille détours, et c'est très visible d'ailleurs, on voit le travail à l'œuvre.
Et mille ratures, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer qu'un brouillon de Flaubert, c'est une page saturée de transformation au point que Il va devoir la recopier en faisant le bilan de tout ce qu'il a ajouté et enlevé sur une page propre pour pouvoir continuer. C'est-à-dire que c'est quasiment noir. Et c'est évidemment une très grande difficulté de rendre lisible ce qui était parfois même assez difficilement lisible pour Flaubert lui-même, au point qu'il était obligé de se recopier. Voilà le défi.
Vous étiez collé ce travail avec les carnets de travail de Flaubert?
Oui, bien sûr. Carnets étaient moins compliqués au sens où c'était des texte de recherche, donc où il y avait peu de ratures. Les brouillons, c'est terrible, parce que les brouillons, c'est véritablement, si vous voulez, comme une sorte de maelstrom de transformation. Vous avez jusqu'à 2000, 3000 transformations par page.
Alors, on a l'envers du décor, on a ce cerveau en ébullition qui produit ses phrases parfaites. Ensuite, à terme, ultimement, une fois qu'il les a fait passer par tous les filtres. Vous avez parlé tout à l'heure de secret de l'écriture. Est-ce que ce n'est pas abusif de parler là d'un secret de l'écriture? Est-ce qu'en somme, le secret de l'écriture, ultimement, on l'obtient de façon génétique, de cette manière? C'est-à-dire de façon scientifique
Écoutez, oui.
Vous pensez ça?
Véritablement. Alors, peut-être pas le cas pour tous les dossiers de genèse, mais chez Flaubert, on a observé depuis qu'on travaille de très près sur ces brouillons, un phénomène tout à fait étonnant qui est que le développement d'une genèse flaubertienne n'est pas du tout du même profil qu'une genèse balzacienne, par exemple. Balzac, en gros, commence à écrire un scénario de 25 pages et puis quand il le dilate et quand il arrive à 350 pages, il publie. Flaubert, à partir d'un scénario du même type,
d'une page,
va monter d'une page ou de trois pages ou de quatre pages, va faire monter la dilatation à un point extrême. Vous voyez, ou coefficient 20 ou 25, et dans un deuxième temps, va se mettre à contracter son texte. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans les brouillons où vous avez une formule presque totale de l'imaginaire, de toutes les pistes qu'il a cherché à introduire dans son histoire, dans la sémiologie complexe de son écriture, et ensuite une condensation qui va par l'ellipse, par... Une sorte de rétraction formidable de 40% de la masse textuelle, quand même, arriver à un texte, non pas indéchiffrable, mais énigmatique, et qui fait le chef-d'œuvre.
Mais donc on n'en a pas le secret. On a un secret à ciel ouvert, mais c'est un secret auquel on n'accède pas, en définitive.
On accède à des pistes, c'est un petit peu comme la cavane d'Ali Baba, si vous voulez. Hein, vous avez quand même tous les secrets, dans les brouillons, des milliers d'interprétations possibles que Flaubert a cherché à mettre en réseau, en les rendant problématiques. Et ça, c'est une chose... Le critique le plus intelligent, il sera quand même toujours un tout petit peu moins intelligent que Flaubert s'il est en train de travailler sur Flaubert. On peut lui faire confiance. Il y a là des merveilles de découvertes à faire.
Prenons un exemple. Hier, on parlait d'éducation sentimentale, Pierre-Marc de Biasi, avec Anne Herzberg-Pierrot, et la séparation de Frédéric Moreau et Madame Arnoux. C'est déchirant, elle s'en va, il voit ses cheveux blancs, etc. etc. On a beaucoup parlé de la scène hier. Et ce fut tout, dit Flaubert. Alors évidemment, on est curieux de savoir à quel maelstrom correspond la folie de résumer tout en quatre mots.
Et ce fut tout, si vous voulez, est probablement aussi difficile à écrire.
Vous avez vu la page
correspond à ça pour Flaubert, qu'il s'appelait Loulou ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, si vous voulez, une simplification de l'expression qui suppose le passage par une quinzaine, parfois une trentaine, d'écritures successives qui vont d'abord développer tous les sens possibles et qui vont finir par arriver à cette formule qui est un défi de simplicité.
C'est Loulou qui nous y invite. Hein. Vous avez dit, il s'appelait Loulou. Loulou, c'est lui. Loulou, ça n'est pas Flaubert, encore que, peut-être. Loulou, c'est le perroquet de Félicité qu'elle aime tant écouter le texte.
Il s'appelait Loulou et son corps était vert, le bout de ses ailes rose, son front bleu et sa gorge dorée. Mais il avait la fatigante manie de mordre son bâton, s'arrachait les plumes, éparpillait ses ordures, répandait l'eau de sa baignoire. Madame Aubin, qui l'ennuyait, le donna pour toujours à Félicité. Elle entreprit de l'instruire. Bientôt il répéta «
Charmant garçon, serviteur, monsieur, je vous salue, Marie. »
Il était placé auprès de la porte et... Plusieurs s'étonnaient qu'il ne répondît pas au nom de Jaco, puisque tous les perroquets s'appellent Jaco. On le comparait à une dinde, à une bûche. Autant de coups de poignard pour Félicité. Étrange obstination de Loulou, ne parlant plus du moment qu'on le regardait.
Étrange lecture de Georges Clèze, toujours inspiré quand il lit du Flaubert. Alors dans Un cœur simple, il y a un bestiaire formidable. Hein. Des lapins, un taureau, des bœufs, un taureau furieux, des bœufs, des chevaux, un âne, un loup, des moutons, des poules, des oursins, des méduses, des poissons en bataille et même des coquilles Saint-Jacques. Et puis il y a Loulou. Qui est Loulou, Pierre-Marc de Biasi?
Loulou, c'est l'énigme du perroquet Paraclet. Faut pas oublier que ce texte...
C'est le Saint-Esprit, oui.
C'est le Saint-Esprit, c'est du moins la façon dont Flaubert, l'audacieux...
D'ailleurs, il sait dire « Je vous salue Marie, Loulou ».
Oui, vous avez vu qu'il n'a pas mis que ça, Flaubert, hein, mais il a mis ça quand même. À tel point qu'on peut se demander si « Je vous salue Marie » n'est pas une parole de perroquet. Le texte de Trois Contes a été reçu par la presse catholique française comme un assagissement de Flaubert. On a dit enfin, après toutes ces folies, ces monstruosités de Salammbô, ces perversions de
Madame Bovary,
ces cruautés socialistes de l'éducation sentimentale, enfin Flaubert devient sage, il nous parle de la sainteté. Oui, mais quelle bizarre sainteté, hein. Saint Julien deviendra saint à force d'avoir tué son père et sa mère.
Ça, c'est la assassiné. Légende de Saint Julien l'Hospitalier.
Voilà. Tout à fait. Premier des trois contes écrits. Ouais. Hérodias nous raconte quand même la décapitation de Saint Jean et comment, pour le désir d'une mineure, Hérode fait décapiter un saint. Et au fond, Félicité, enfin un cœur simple, est l'histoire d'une vieille bonne femme qui confond un perroquet avec le Saint-Esprit. Est-ce que c'est véritablement ce qui était attendu de l'idéologie catholique des années 1875? C'est pas sûr, mais personne s'en est rendu compte.
À l'église, elle contemplait toujours le Saint-Esprit et observa qu'il avait quelque chose du perroquet. Sa ressemblance lui parut encore plus manifeste sur une image d'Épinal représentant le baptême de Notre Seigneur avec ses ailes de pourpre et son corps d'émeraude. C'était vraiment le portrait de Loulou. Voilà, Félicité, donc un cœur simple, brossé par ses passions, et la passion exclusive qu'elle porte à ce perroquet. Alors, il faut refaire l'histoire, les circonstances dans lesquelles ce perroquet lui a été remis, Pierre-Marc de Biasi.
Alors, ce perroquet est un cadeau qui est fait à Madame Aubin par des gens des îles qui viennent...
un nègre, dit Flaubert.
C'est la trace de la colonisation française et qui arrive en Normandie et puis qui finit par échoir à Félicité parce qu'on l'a vu, il quand même lui fait tout un tas de saletés, etc. C'est évidemment pour Flaubert un animal... D'ailleurs, Julian Barnes avait fait un joli livre là-dessus.
Le perroquet de Flaubert.
Hein, tout Flaubert. Un animal ultra crucial parce qu'il est à la fois... dans l'histoire, une incarnation du Saint-Esprit, mais il est aussi, évidemment, une incarnation du Verbe, au sens littéraire du terme. C'est l'animal qui parle, quoi. Mais c'est l'animal qui répète en parlant. Et du même coup, pour Flaubert, c'est l'animal qui manie une sorte d'image du stéréotype, du cliché, à l'état naturel. À tel point qu'on peut se demander si toute cette histoire n'est pas une fable, une parabole de l'écriture.
Quand il descendait l'escalier, c'est Loulou, il appuyait sur les marches la courbe de son bec, levait la patte droite puis la gauche, et elle avait peur qu'une telle gymnastique ne lui causât des étourdissements. Il devint malade, ne pouvait plus parler ni manger. C'était sous sa langue une épaisseur, comme en ont les poules quelquefois. Elle le guérit en arrachant cette pellicule avec ses ongles. En d'autres termes, Félicité lui rend la parole.
Exactement. Vous voyez comment, à travers les choses de la réalité, de la matérialité, de la campagne, hein, beaucoup, puisque Félicité est une fille de la campagne, c'est d'un symbole qu'il est question à chaque moment, et comment ce texte, au fond, est une sorte de désymbolisation au sens propre. C'est-à-dire, Félicité va prendre, mais de toute bonne foi, pour le Saint-Esprit, cet animal, auquel elle va vouer tout l'amour qu'elle a cherché à vouer aux humains, et dont les humains n'ont pas voulu.
Le petit cercle de ses idées se rétrécit encore. C'est le moment où Félicité devient sourde. Le carillon des cloches, le mugissement des bœufs n'existaient plus. Tous les êtres fonctionnaient avec le silence des fantômes. Un seul bruit arrivait maintenant à ses oreilles, la voix du perroquet. C'est une voix d'ailleurs qu'elle continue à entendre, même quand le perroquet est mort et empaillé.
Oui. Oui.
C'est tout à fait extraordinaire quand même, quand on y pense.
C'est un texte à travers lequel passe une réflexion absolument fondamentale sur... ce que c'est que la parole, ce que c'est que la bêtise, ce que c'est que l'honneur d'une certaine parole bête, au-delà des clivages que la société nous inflige.
Les oppressions et la fièvre augmentaient. Félicité se chagrinait de ne rien faire pour le reposoir, au moins si elle avait pu y mettre quelque chose. Alors, elle songea au perroquet. Ce n'était pas convenable, objectèrent les voisines. Mais le curé accorda cette permission. Et elle en fut tellement heureuse qu'elle le pria d'accepter, quand elle serait morte, Loulou, sa seule richesse. Du mardi au samedi, veille de la fête Dieu, elle toussa fréquemment. Le soir, son visage était grippé, ses lèvres se collaient à ses gencives, les vomissements parurent. Et le lendemain, au petit jour, se sentant très bas, Elle fit appeler un prêtre. Trois bonnes femmes l'entouraient pendant l'extrême onction. Puis elle déclara qu'elle avait besoin de parler à Fabu. Il arriva, en toilette des dimanches, mal à son aise dans cette atmosphère lugubre. « Pardonnez-moi, » dit-elle avec un effort pour étendre le bras, « je croyais que c'était vous qui l'aviez tué. » Que signifiaient des potins pareils? L'avoir soupçonné d'un meurtre, un homme comme lui, et il s'indignait, allait faire du tapage. Ben, elle n'a plus sa tête, vous voyez bien. Félicité, de temps à autre, parlait à des ombres. Les bonnes femmes s'en allèrent. La Simone déjeuna. Un peu plus tard, elle prit Loulou et, l'approchant de Félicité, « Allons, dites-lui adieu. » Bien qu'il ne fût pas un cadavre, les vers le dévoraient. Une de ses ailes était cassée. Les toupes lui sortaient du ventre. Mais, aveugle à présent, elle le baisa au front et le gardait contre sa joue.
Contre sa joue, elle le garde d'amour contre sa joue. C'est un geste maternel entre tous. Il faut rappeler que Félicité bénit Loulou, l'existence ou l'arrivée de Loulou dans sa vie, parce qu'il vient des îles. Or, c'est sur les îles qu'est parti l'unique être qu'elle aimait véritablement, qui est son soi-disant neveu Victor, Pierre-Marc de Biasi.
Oui, en fait, toute l'histoire de la vie de Félicité, c'est une sorte de besoin de donner son amour et une sorte de fuite de l'objet, quoi. Personne n'accepte cet amour et elle... Dans son trajet, elle rencontre ce jeune Victor qui va disparaître. C'est un deuil de plus dans sa vie, à qui elle avait voué son amour maternel. Et il meurt dans des régions lointaines. Elle cherche à savoir où il est quand il est parti en voyage. Il est matelot. Elle va demander l'aide pour le savoir d'un savant du village,
Bourret, qui
lui montre sur une carte où est Cuba. Et elle ne veut pas croire que ce soit ce point tout petit. Et Bourret se moque d'elle terriblement.
Elle se pencha sur la carte, ce réseau de lignes coloriées fatiguait sa vue sans lui rien apprendre, et Bourret, l'invitant à dire ce qui l'embarrassait, elle le pria de lui montrer la maison où demeurait Victor. Bourret leva les bras, il éternua, rit énormément, une candeur pareille excitait sa joie, et Félicité n'en comprenait pas le motif, elle qu'il s'attendait peut-être à voir jusqu'au portrait de son neveu.
Oui, mais vous savez que Pierre Dumayet, dans les émissions littéraires qu'il avait faites il y a une vingtaine d'années, avait fait lire ce texte à une servante normande des années 80. Et la servante normande avait dit, bah, pourquoi il se moque d'elle? C'est vrai, pourquoi il ne lui montre pas la maison de Victor? Et Bourret finit très mal dans l'histoire. Oui, ça ne lui vaut rien du tout de cette moquée de Félicité.
Oui, c'est une autre forme de bêtise, Bourret. C'est la bêtise érudite.
C'est celle
cette
qui fait mal.
C'est celle qui fait mal. C'est celle qui ne doute pas d'être intelligente.
Oui,
en tout cas.
Parce que là... Félicité est bête, indiscutablement. Elle est bête, mais au sens aussi...
Mais elle est bête d'ignorance.
Elle est proche des animaux. Mais cette bêtise-là est une bêtise qui n'offense pas. Et c'est une bêtise sans bassesse.
Et c'est une bêtise qui est capable d'amour. Alors, on peut trouver naïf, évidemment, le fait qu'elle cherche le portrait de son neveu sur une carte, sur une map monde ou sur un globe terrestre. Mais en même temps, quand Flaubert écrit « Les jours de soleil, elle se tourmentait de la soif. Quand il faisait de l'orage, craignait pour lui la foudre. En écoutant le vent qui grondait dans la cheminée et emportait les ardoises, elle le voyait battu par cette même tempête au sommet d'un mât fracassé, etc. etc. » En d'autres termes, c'est quelqu'un... Bien sûr, elle croit que ce qui se passe ici, ça se passe là-bas. Elle ne fait pas de différence. Mais en même temps, c'est quelqu'un que son amour porte à souffrir des douleurs qu'elle ignore et dont elle ignore tout.
C'est une incarnation de la compassion au sens le plus plein du terme. Oui. Mais une compassion, et c'est ça qui est troublant, qui est profondément matérielle, profondément du côté de la nature, du corps, des animaux, d'une vie, je dirais, ça me fait penser souvent en relisant... un cœur simple à l'animal absolu de Berkeley. Vous savez, Berkeley dit « Quand le ciel est bleu, l'âme du chien est bleue ». Et bien c'est ça. Hein, ça donne cette impression d'une puissance extrême de la nature, convertie en amour, en don, mais tout à fait loin des catégories religieuses ou morales de la civilisation.
Et cette puissance extrême de la nature qu'elle incarne ou qu'elle comprend lui vaut d'être héroïque à son insu. Elle ne sait même pas quand elle est héroïque, qu'elle est héroïque, comme c'est le cas avec l'épisode du taureau fou. Écoutez.
La lune, à son premier quartier, éclairait une partie du ciel et un brouillard flottait comme une écharpe sur les sinuosités de la touque. Des bœufs, étendus au milieu du gazon, regardaient tranquillement ces quatre personnes passer. Dans la troisième pâture, quelques-uns se levèrent puis se mirent en rond devant elle. « Ne craignez rien, » dit Félicité. Et murmurant une sorte de complainte, elle flatta sur l'échine celui qui se trouvait le plus près. Il fit volte-face. Les autres l'imitèrent. Mais quand l'herbage suivant fut traversé, un beuglement formidable s'éleva. C'était un taureau que cachait le brouillard. Il avança vers les deux femmes. Madame Aubin allait courir. Non, non, moins vite. Elle pressait le pas, cependant, et entendait par derrière un souffle sonore qui se rapprochait. Ses sabots, comme des marteaux, battaient l'herbe de la prairie. Voilà qu'il galopait, maintenant. Félicité se retourna et elle arrachait à deux mains des plaques de terre qu'elle lui jetait dans les yeux. Il baissait le mufle, secouait les cornes et tremblait de fureur en beuglant horriblement. Madame Aubin, au bout de l'herbage avec ses deux petits, cherchait éperdue comment franchir le haut bord. Félicité reculait toujours devant le taureau et continuellement lançait des mottes de gazon qui l'aveuglaient, tandis qu'elle criait « Dépêchez-vous, dépêchez-vous !» Madame Aubin descendit le fossé, poussa Virginie, Paul ensuite, tomba plusieurs fois en tâchant de gravir le talus et, à force de courage, y parvint. Le taureau avait acculé Félicité contre une claire-voie. Sa bave lui rejaillissait à la figure. Une seconde de plus, il l'éventrait. Elle eut le temps de se couler entre deux barreaux et la grosse bête, toute surprise, s'arrêta. Cet événement, pendant bien des années, fut un sujet de conversation à Pont-l'Évêque. Félicité n'en tira aucun orgueil, ne se doutant même pas qu'elle eût rien fait d'héroïque.
Non, parce que c'est un héroïsme naturel. Alors cette scène, évidemment, a été beaucoup glosée, elle est complexe, hein, elle est traversée par des détails qui peuvent évoquer aussi des choses de l'ordre de la sexualité.
On va en parler de la sexualité de Félicité.
C'est la bave du taureau. Cette scène, elle doit aussi être mise en série avec des choses qui traversent toute l'œuvre de Flaubert, notamment l'œuvre des romans sur la modernité. Le côté presque archaïque et mythique de la présence de la vache, du taureau. C'est Pierre Michon qui pense que, au fond, Madame Bovary, c'est avant tout un roman sur le mythe. Sur le mythe archaïque de la mise à mort, du sacrifice de la vache. On a quelque chose de cet ordre-là ici aussi, hein, qui est présent. L'héroïsme de Félicité...
Qui confine à la sainteté, puisqu'elle l'ignore.
Oui.
Un héroïsme qui ne se sait pas lui-même.
Oui, c'est de la modestie pure et simple. C'est-à-dire qu'elle a d'ailleurs quelque chose de
Est-ce qu'on est modeste quand on ignore l'orgueil ? Parce qu'une modestie qui n'est pas une conquête sur la tentation de l'orgueil, est-ce que c'est encore de la modestie ?
Non, là, on est à une échelle qui est complètement
De la sainteté, non ? C'est pour ça qu'on peut parler de sainteté, peut-être ?
Oui, mais comme comme la sainteté est envahie nécessairement par l'idée de transcendance, on est un petit peu acculé à un paradoxe, parce que cette transcendance, elle est une pure immanence chez notre amie Félicité. Et la seule transcendance qu'elle va s'inventer, c'est celle de l'image d'Épinal, d'un perroquet qui a été donné pour l'image du Saint-Esprit, dans laquelle elle reconnaît le Verbe en ayant son loulou devant elle. Il y a évidemment une critique de l'incrédule Flaubert qui est là, mais cette critique ne remet absolument pas en cause l'héroïsme de Félicité, une grandeur purement humaine. Quoi.
Et sa connaissance des animaux, c'est également ce qui lui vaut de savoir, par exemple, ce que c'est que la sexualité. Flaubert dit à un moment, dans une phrase absolument lapidaire et impitoyable, il dit « Oh, elle n'était pas innocente à la manière des demoiselles, les animaux l'avaient instruite.
Oui. »
En d'autres termes, elle sait comment on fait parce qu'elle a vu les animaux faire.
Oui.
Et c'est le peu d'amour qu'elle a connu dans sa vie, c'est un homme qui, pour lui témoigner son affection, essaye de la violer.
Oui, le
avant
récit,
de la demander en mariage.
Oui, le récit de la vie amoureuse de Félicité est assez, assez terrible. D'ailleurs, il y a l'image du père aussi qui traverse étrangement cette évocation. Elle avait eu connu comme les autres, son histoire d'amour. Son père était tombé d'une échelle, etc. C'est assez,
oui,
assez
oui, oui, c'est vrai. C'est le chapitre 2 d'Un cœur simple. Ouais. Elle avait eu comme une autre son histoire d'amour. Ouais. Phrase d'après, son père, un maçon, s'était tué en tombant d'un échafaudage.
Là, on est presque dans du Queneau, quand même. Hein. Ouais. Et que les animaux l'aient instruit dans les choses de l'amour fait partie de cette dialectique extrêmement forte dans ce personnage, d'une affirmation presque spinoziste, hein, de la force à être de cette nature naturante, quoi, qu'elle incarne sans le savoir. Et c'est en ça qu'elle est quand même assez différente de l'autre figure d'un demi-siècle. Hein, vous citiez Raphaël.
Oui, ça, c'est la référence à la première phrase. Là, hein, on la lit. Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l'Évêque envièrent à Madame d'Aubin sa servante Félicité. Or, le demi-siècle, on l'entend déjà dans Madame Bovary, quand Catherine Nicaise-Élisabeth Leroux est récompensée lors de la cérémonie des comices et que Flaubert la désigne comme un demi-siècle de servitude.
Alors, je pense qu'effectivement, pour donner raison à George Sand, parce qu'il ne faut pas oublier que ce texte a été écrit pour George Sand, quand même, véritablement, la pauvre George Sand disparaîtra avant que Flaubert n'ait pu faire lire le texte. Pour faire plaisir à George Sand et lui donner raison, Flaubert a repris la figure de ce personnage de Madame Bovary, mais en le transfigurant complètement. On est 25 ans plus tard, c'est-à-dire à un moment où l'art de Flaubert, d'une certaine façon, va ici s'incarner dans une sorte de testament littéraire. On ne peut pas faire plus équilibré, plus réussi comme prose, prose.
Et ce qui est étonnant aussi, Pierre-Marc de Biasi, c'est que Flaubert parle avec une extrême sobriété de la mort de tout le monde, de Loulou, de Victor, de Madame Aubin, mais la mort de Félicité, c'est-à-dire la fin du texte, c'est autre chose.
Des guirlandes vertes pendaient sur l'autel, ornées d'un falbala en point d'Angleterre. Il y avait au milieu un petit cadre enfermant des reliques, deux orangers dans les angles, et tout le long des flambeaux d'argent et des vases en porcelaine d'où s'élançaient des tournesols, des lys, des pivoines, des digitales, des touffes d'hortensias. Ce monceau de couleurs éclatantes descendait obliquement du premier étage jusqu'au tapis se continuant sur les pavés, et des choses rares tiraient les yeux. Un sucrier de vermeil avait une couronne de violette. Des pendeloques en pierre d'Alençon brillaient sur de la mousse. Deux écrans chinois montraient leur paysage. Loulou, caché sous des roses, ne laissait voir que son front bleu, pareil à une plaque de lapis. Les fabriciens, les chantres, les enfants se rangèrent sur les trois côtés de la cour. Le prêtre gravit lentement les marches et posa sur la dentelle son grand soleil d'or qui rayonnait. Tous s'agenouillèrent. Il se fit un grand silence. Et les encensoirs allant à pleine volée glissaient sur leurs chaînettes. Une vapeur d'azur monta dans la chambre de Félicité. Elle avança les narines en la humant avec une sensualité mystique. Puis ferma les paupières. Ses lèvres souriaient. Les mouvements du cœur se ralentirent, un à un, plus vagues chaque fois, plus doux, comme une fontaine s'épuise, comme un écho disparaît. Et quand elle exhala son dernier souffle, elle crut voir dans les cieux entr'ouverts un perroquet gigantesque planant au-dessus de sa tête.
On met les grandes orgues, Pierre-Marc de Biasi, pour terminer cette émission, mais en même temps, le sourire de Félicité, c'est pas forcément la béatitude christique.
Non, et je crois qu'il y a une énigme qu'on pourrait presque caractériser comme bouddhique dans ce sourire. On a l'impression que, peut-être, elle sourit au verbe. Elle sourit en tout cas à coup sûr, à la fin de toute cette souffrance. Comme si sa sainteté avec quelque chose de très oriental, de retour au grand néant.
Et bien c'est sur cette hypothèse qu'on va terminer cette émission. On vous remercie infiniment d'être venu, Pierre-Marc de Biasi. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur de l'Institut des textes et manuscrits modernes du CNRS, et que on vous doit notamment la préface aux trois contes en GF et en Seuil Poche, et une récente histoire de l'érotisme parue en Découverte, donc chez Gallimard. Demain, je recevrai Gisèle Séginger, professeur à l'Université de Marne-la-Vallée, et on parlera de Salammbô ensemble. Les textes, évidemment, ont été lus par Georges Kless. Et je rappelle que l'atelier Bovary est maintenant disponible donc sur Internet, à l'adresse suivante, donc tout Madame Bovary, l'envers du décor, www.zoulou.com/Bovary/. À la technique aujourd'hui, c'était Jean Frédérics, à la réalisation François Connac, assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Marion Richer, et sous Philippe Glass, sur France Culture, il est 20h. Tout de suite, on retrouve À Voix Nue sur France Culture.